Accent d'Europe, Léa-Lisa Vesterov.
There's always a fire in the kitchen. There's always a kettle on the boil.
Bonjour, l'Europe fait face à une crise énergétique sans précédent avec cette double contrainte, limiter la flambée des prix et s'assurer qu'il y ait assez de gaz et d'électricité pour l'ensemble des foyers et des entreprises. Pour résoudre ce casse-tête, les appels à la sobriété énergétique se multiplient, tout comme les aides de l'État. Exemple au Royaume-Uni, où le gouvernement va mettre la main à la poche jusqu'en avril prochain pour limiter l'envolée des factures d'énergie. Mais le problème, c'est que tout ça ne résout pas les problèmes structurels. Les habitations britanniques sont très mal isolées, avec en moyenne une perte de 3 degrés de chaleur. C'est le pire diagnostic de performance énergétique européen. Le reportage dans le sud-est de Londres de Marie Billon.
Suzanne hésite à mettre un manteau pour sortir de chez elle. Elle porte déjà plusieurs épaisseurs de vêtements quand elle est à l'intérieur.
Je ferme toutes les portes et je porte des vêtements bien molletonnés. Je suis de la vieille école. J'ai toujours fait attention à ce que je consommais.
Suzanne a 72 ans. Elle n'a toujours pas allumé son chauffage, aidée par un automne relativement clément pour l'instant, mais surtout motivée par le prix du gaz et de l'électricité.
Mon fournisseur a augmenté mon prélèvement automatique à hauteur de plus de 230 euros par mois, alors qu'avant, je payais 51 euros. C'est le quart de ce que je touche pour ma retraite. C'est que l'isolation de mon appartement est terrible. J'ai trop chaud l'été, trop froid l'hiver. Je gèle dans mon salon glacé. Là, j'ai mis du papier journal contre mes fenêtres, mais l'eau entre quand même. C'est embarrassant de devoir vivre comme ça.
Suzanne vit au dernier étage d'un immeuble en briques, typique des habitations à bas prix du Royaume-Uni. Les couloirs du bâtiment sont à l'extérieur, si bien que les parois des logements sont en contact avec l'air froid.
C'est une propriété qui fait partie d'une housing association. Je suis propriétaire des murs intérieurs, mais je n'ai aucun pouvoir sur la structure de l'immeuble. Les actuels propriétaires de l'immeuble sont les pires qu'on ait jamais eus. C'est choquant. Ils reçoivent de l'argent du gouvernement pour fournir des logements, mais ils ne font rien pour le maintien des structures ou pour nous aider, nous, les locataires. Je m'inquiète vraiment.
Une housing association est une structure à but non lucratif qui a repris la gestion d'habitations à loyer modéré. Ces appartements sont destinés aux personnes qui ont des moyens limités ou bien besoin d'aide particulière. Suzanne vit ici depuis 33 ans et son immeuble n'est pas en pire ou meilleur état que d'autres aux alentours. Au coin de la même rue, Jamie Baker regarde un autre immeuble en briques qui ressemble comme deux gouttes d'eau à celui de Suzanne. Sauf que sur celui-ci, les dégâts sont bien visibles sur la façade.
Vous voyez ces tuyaux le long de la façade? Il y a des traces de calcaire tout du long. Ça veut dire qu'il y a une fuite et qu'il y a certainement de l'humidité dans les habitations. J'ose à peine imaginer à quoi ça doit ressembler à l'intérieur. Dans les appartements, ce type de fuite cause humidité, moisissure, froid. Pour empêcher ça, il faut chauffer encore plus.
Jamie Baker est contrôleur en bâtiment pour l'équivalent de la mairie de l'arrondissement. Il sait combien ça coûterait de réparer la fuite sur ces tuyaux et les dégâts que ça a déjà causés. Cher, dit-il, et des traces d'humidité comme celle-ci qui courent du haut en bas de la façade d'immeubles en briques, il y en a des dizaines dans le quartier.
L'entretien du parc immobilier est probablement inadéquat. On se concentre sur des réparations, je dirais même qu'on part au plus pressé tout le temps, et donc l'entretien et la maintenance sont de moins en moins la priorité.
Le problème, dit Jamie, c'est que tout cela ne peut qu'empirer car l'état du parc immobilier britannique est de fait lié à la situation internationale qui fait flamber les prix de l'énergie.
Beaucoup de ces habitations sont pleines d'humidité. Les gens ouvrent leurs fenêtres pour aérer, mais ne se chauffent pas assez. Avec le prix de l'énergie qui augmente, ça ne va aller qu'en s'aggravant. On n'entretient pas assez les bâtiments.
Le gouvernement a promis une aide de 400 livres, soit environ 66 livres par mois, par foyer jusqu'en avril prochain. Mais pour certains spécialistes comme Marie-Claire Bribois de l'Université du Sussex, si l'aide est bien sûr bienvenue, les autorités devraient penser et investir à plus long terme.
La logique voudrait qu'on tente de diminuer la demande. La mauvaise isolation des habitations britanniques pourrait être résolue en menant un programme agressif de modernisation. Ainsi, les gens dépenseraient moins en gaz et en électricité, nous serions moins exposés au haut coût de l'énergie, tout simplement parce qu'on aurait moins besoin d'en consommer.
Mais ce n'est pas la stratégie qu'a choisi le gouvernement britannique jusqu'à présent. La précédente première ministre, Liz Truss, aurait même bloqué une campagne appelant à la sobriété énergétique, la trouvant trop maternisante et interventionniste. Le nouveau chef du gouvernement, Rishi Sunak, ne s'est pas encore prononcé sur cette question. Alors certains prennent les choses en main. Aviv a acheté sa maison il y a 3 ans. Elle se situe à quelques centaines de mètres de l'immeuble de Suzanne, mais elle est construite sur pilotis, au-dessus d'un étang, avec son épouse. Aviv a tout de suite décidé de refaire l'isolation.
Ce sont des murs creux, 2 murs avec une poche d'air au milieu que nous avons remplis d'une mousse isolante. Ensuite, parce que notre maison est construite sur l'eau et qu'on ne voulait pas avoir les pieds froids, on a installé des planches isolantes en polyester spécial, très isolantes, et le chauffage au sol. Et comme la chaleur monte vers le haut, toute la maison en bénéficie.
Aviv a aussi acheté un nouveau chauffe-eau à gaz et installé des panneaux solaires sur le toit de sa maison, le tout pour environ 20 000 euros de travaux. Une somme qui empêche beaucoup de propriétaires, sans parler des locataires, d'envisager de faire pareil. Mais grâce à cet investissement, Aviv a drastiquement réduit ses factures d'énergie et sa maison est passée d'un diagnostic de performance énergétique de C à A.
Avec la guerre en Ukraine, partout en Europe, la recherche effrénée de nouveaux partenaires producteurs de gaz est en cours. Pour éviter la pénurie et les coupures de courant, les coupures, voilà ce que le Kosovo vit au quotidien depuis 1 an déjà. En cause, la vétusté des centrales à charbon et l'obligation d'importer de l'électricité à des prix devenus exorbitants, Simon Rico.
Aujourd'hui, le Kosovo dépend à 95% de ses 2 centrales à charbon construites dans les années 60 et 80, à l'époque yougoslave. Ce choix des autorités socialistes s'explique par la richesse de son sous-sol en lignite, qui lui assurait son indépendance énergétique, même si le pouvoir calorifique de ce charbon de piètre qualité est bien inférieur à celui de la houille, par exemple. Ces richesses en lignite permettent d'ailleurs toujours au Kosovo d'avoir le prix de l'électricité le moins élevé d'Europe, plus de 3 fois inférieur au prix moyen dans l'UE. Le hic, c'est que ces 2 centrales à charbon ne peuvent plus faire face à la demande actuelle, d'autant plus qu'elles sont sans cesse en maintenance pour des problèmes techniques liés à leur vieillissement. Dans ces conditions, le Kosovo doit désormais importer environ le tiers de son électricité, une situation devenue intenable avec l'explosion des cours depuis l'automne 2021. Pour tenter de réduire la facture, les autorités de Pristina ont donc dû se résoudre à des coupures quotidiennes tournantes, puis à surtaxer les ménages les plus gourmands, qui ont vu en février dernier leur tarif du kilowattheure multiplié par 2 pour les inciter à plus de sobriété. Des aides ont aussi été mises en place à la rentrée pour soutenir les ménages et les entreprises ayant réduit leur consommation, dont le montant variable est déduit des factures afin d'éviter les fraudes. Le gouvernement tente aussi de favoriser la transition en soutenant l'achat de pompes à chaleur, mais aussi de chaudières, de poêles et de climatiseurs plus performants. En revanche, rien n'a encore été prévu pour l'isolation des bâtiments ou l'équipement en panneaux solaires. Face aux nombreuses critiques, les autorités assurent travailler à un nouveau projet de stratégie énergétique avec l'objectif de parvenir à 35% de renouvelables d'ici 2030. Voilà qui ressemble toutefois à un vœu pieux vu le retard pris ces dernières années et l'ampleur du chantier pour y parvenir.
Le chauffage représente la moitié de la demande énergétique européenne et provient à 70% des énergies fossiles. Mais la capitale de la Finlande a peut-être trouvé une solution. Helsinki devrait bientôt être chauffée grâce aux eaux glacées de la Baltique. La ressource est abondante, propre et gratuite et devrait permettre à la Finlande d'être moins dépendante des importations d'énergie fossile, justement. Et cette technologie a déjà été testée et approuvée, Carlotta Morteo.
Et oui, depuis 10 ans maintenant, la ville de Drammen, en Norvège, chauffe 85% de sa population grâce à l'eau froide de la Baltique. Drammen, c'est une ville de 65 000 habitants, 10 fois moins que la capitale finlandaise, mais le système sera exactement le même à une plus grande échelle. Concrètement, il s'agit de construire une usine de pompe à chaleur. Ça marche comme un réfrigérateur, grâce au procédé assez classique de la compression vapeur. Grâce à un gaz, ici l'ammoniac, qui n'est pas un gaz à effet de serre comme les halocarbures, généralement utilisée dans nos frigos, l'eau de la Baltique est chauffée à 90 degrés pour alimenter le réseau de chauffage municipal avant d'être à nouveau refroidie pour être rejetée en mer. L'usine thermique d'Helsinki couvrira 40% des besoins en chauffage de la capitale. Le projet doit voir le jour dans 7 ans. 400 millions d'euros ont déjà été investis. À Drammen, le bilan de cette technologie est excellent. La ville a économisé chaque année plus de 2 millions d'euros et a rejeté 1,5 tonne de CO2 en moins, puisque le chauffage résidentiel fonctionnait avant majoritairement au gaz. Sachant qu'en plus, il sera possible de renverser le fonctionnement des pompes à chaleur pour produire, en été, de l'air conditionné.
Mais certaines communes n'ont pas attendu la crise énergétique en cours pour faire la chasse au gaspillage de l'énergie et trouver des solutions locales à la production d'électricité. Montdidier, par exemple, une petite commune rurale de 6350 habitants à 100 km au nord de Paris, a commencé ce chantier il y a 20 ans. En 2004, Montdidier a ainsi reçu un label « Ville pilote en maîtrise de l'énergie » avec pour objectif d'atteindre l'autosuffisance énergétique d'ici 3 ans. Lise Verbeck s'est rendue sur place pour nous.
Bonjour. C'est Catherine Quignon, la maire de Montdidier, qui, avec son équipe, a lancé l'objectif d'autosuffisance. Et ça a démarré en 2001. Quand elle prend la tête de la commune, les caisses sont complètement vides. L'idée d'économiser est donc née d'une nécessité.
Il nous faut donc travailler sur la maîtrise des dépenses des frais de fonctionnement. À partir de ce moment-là, on va commencer à lancer une étude sur comment économiser de l'énergie. Et la première opération que nous allons lancer, c'est l'aménagement des postes d'éclairage public pour pouvoir consommer moins.
Cela a permis de réduire la consommation de 25%, mais ce n'était pas encore suffisant. Alors la maire décide de s'appuyer sur une spécificité de la commune, un atout qui devient rare en France.
Nous avons une régie communale d'électricité, c'est-à-dire qu'on est capable de produire notre électricité à Montdidier et de la distribuer sur tout le territoire communal, et lorsqu'il y en a de trop, de le renvoyer sur le réseau national. Donc ça, c'était un véritable atout. Donc va germer l'idée de diversifier la production.
Des études sont menées pour mesurer le vent qui souffle sur Montdidier, et un projet d'éolienne est lancé en 2003. 4 éoliennes sont construites en 2011. Elles produisent plus de la moitié de la consommation de la ville. C'est le premier parc éolien public développé par une collectivité locale en France et toujours l'unique à ce jour. Si les habitants de Montdidier payent l'électricité au même prix que les autres Français, grâce aux éoliennes, ils bénéficient davantage.
Nous donnons en fin d'année des chèques qui sont distribués localement et qui ne sont utilisés que dans le commerce local. Cette année, chaque foyer fiscal aura 75 euros. On est dans le principe d'une boucle avec un cercle vertueux.
En 2004, la labellisation de la ville en site pilote en maîtrise de l'énergie par l'ADEME, l'Agence de l'environnement, lui permet également de devenir un vrai laboratoire. Les bâtiments publics, écoles, hôpitaux notamment, bénéficient de travaux d'isolation et les projets se multiplient.
On va implanter la première chaufferie bois de Picardie. Très vite, on se rend compte que finalement, c'est bien, hein, on alimente une école, on alimente un centre des impôts, une cantine, mais qu'on pourrait optimiser et faire un réseau de chaleur. Et là encore, on va être soutenu par l'État, on va être soutenu par l'ADEME, on va être soutenu par l'Europe, on va faire le premier réseau de chaleur de Picardie. Ensuite, ce réseau va être étendu, il dessert tous les équipements quasiment collectifs de la ville, hôpital, lycée, collège, les écoles, le cinéma, la mairie, la sous-préfecture, enfin bref, tout ça va être raccordé à un premier réseau de chaleur, puis un second qui va venir s'interconnecter. Et ben aujourd'hui, qu'est-ce qu'on en est heureux, parce qu'on n'est pas sous le joug du gaz. Aujourd'hui, on alimente en gros à 90% par le bois, 90% par le bois, ce réseau de chaleur.
Aujourd'hui, la ville fonctionne à 75% avec les énergies renouvelables et elle a pour objectif d'atteindre les 100% d'ici 2026 avec le vent, la chaufferie bois, mais aussi le solaire. Et il y a d'autres communes pilotes en maîtrise de l'énergie dans la région Hauts-de-France. Fourmies, Grande-Synthe et Losangouel le sont depuis une vingtaine d'années. À Losangouel, ancienne cité minière où se trouve d'ailleurs le CD2E, un centre qui accompagne l'éco-transition sur les territoires et qui est le premier et le plus gros de France. L'objectif de ces villes pilotes est d'inspirer d'autres collectivités, explique François-Xavier Calins, le directeur adjoint de ce centre.
Il y a un effet domino qui est recherché, c'est-à-dire qu'on se sert finalement de ces précurseurs pour faire état de références concrètes. Alors, ça nous sert finalement de catalyseur pour pouvoir aller plus vite avec les autres communes.
Et depuis quelques mois, avec la crise énergétique, il remarque une forte accélération des projets des collectivités en matière d'énergie renouvelable.
C'est un témoignage hors du commun qu'on vous propose d'écouter avant de se quitter. Celui d'une infirmière en Ukraine qui, pendant l'occupation russe de son village dans la région de Kherson, a assuré seule, avec une collègue, les soins aux habitants. Car la commune de Vysokopilia, 4000 habitants avant la guerre, n'a plus d'hôpital ni de médecin depuis des mois. Anastasia Bekio l'a rencontrée.
Une voix éraillée qui traduit les angoisses, la peur et la fatigue vécues ces derniers mois. Nadia Tsalinska, 62 ans, tente de remettre un peu d'ordre dans sa maison, touchée à deux reprises par des obus. Le 13 mars, les troupes russes sont entrées dans sa petite commune de Vysokopilia. Rapidement, une bonne partie des habitants a fui.
Lorsque les bombardements ont commencé, on a fermé l'hôpital le 15 mars. Deux de nos employés, des hommes, ont été tués et on les a enterrés dans le jardin de l'hôpital. Les gens ont commencé à quitter la ville. Moi, j'ai 6 petits-enfants, 2 enfants. Ils sont restés jusqu'au 23 avril, mais il y avait des militaires russes qui rôdaient. Des bourriates cherchaient des jeunes filles. Or, j'ai deux petites filles de 18 et 20 ans. On a dû les cacher dans la maison et on a réussi à les faire partir le 23 avril. Elles sont parties alors qu'il faisait encore nuit.
Nadia se retrouve seule avec un mari malade et une autre collègue pour soigner les 286 habitants restants, sans électricité, sans eau courante. Son salon se transforme en service d'urgence. De l'hôpital, les infirmières réussissent à rapporter médicaments, perfusions, bandages.
On a commencé à recevoir des habitants blessés. Il fallait stopper des hémorragies. Il y avait aussi des problèmes gastriques, des problèmes de tension. Il n'y avait plus du tout de personnel médical à part nous. On a fait tout ce qu'on a pu. Et lorsqu'on a été à court de bandages, on a découpé des draps.
Tous les jours, les infirmières reçoivent la visite de militaires russes qui exigent un compte-rendu détaillé de leur activité. Elles n'ont pas le droit de quitter la maison. Un drone survole régulièrement la cour. Les soldats russes les soupçonnent de soigner des militaires ukrainiens.
Ils ont commencé à nous mettre la pression quand ils ont attrapé l'un de nos soldats. Il avait une blessure au visage et il avait été recousu. On a eu alors la visite d'un commandant, un dénommé Caspi. Il a commencé à nous harceler en nous accusant d'avoir apporté de l'aide à un combattant ukrainien. Il pensait qu'on l'avait recousu, mais ça n'était pas le cas. Ensuite, ils ont mis leur artillerie juste là, au croisement des deux rues, en nous disant « ça c'est une de nos positions ». Ils se sont mis à tirer. Nous, on était juste là, dans la maison. On est resté dans un coin, on se tenait la main, on avait peur.
Les blessés sont nombreux, les morts aussi, 15 ou 17. Nadia ne se souvient plus très bien.
Imaginez comment on les enterrait. Ça explosait de partout. Les corps des défunts étaient transportés sur une brouette en courant. Une dizaine d'hommes creusaient rapidement un trou pour les enterrer au plus vite. C'était vraiment comme dans un film d'horreur.
Les hommes armés continuent à maintenir la pression sur les deux infirmières alors que la santé du mari de Nadia se dégrade.
Mon mari avait un diabète. Il a eu une gangrène à un orteil. Il aurait fallu qu'on aille le faire soigner, mais il ne nous laissait pas partir. Les mois de juin, juillet, août, il nous surveillait tellement qu'on ne pouvait aller nulle part. Mon mari allait de plus en plus mal. La gangrène a gagné toute la jambe et il a fini par faire une thrombose. Il est mort le 22 août. Ce jour-là, on a subi un bombardement massif. Vous imaginez comme c'est effrayant? Ça explose de partout et à ce moment, mon mari est en train de mourir.
Comme pour essayer d'effacer toute trace de ce passé si proche et si douloureux, l'infirmière, aidée de voisines, colle des papiers peints dans une chambre. Cette nouvelle pièce servira à accueillir des patients en attendant que les médecins dont les maisons ont été détruites puissent reprendre du service.
Accent d'Europe, Françoise Grelot à la réalisation. Retrouvez-nous sur notre site internet, sur les réseaux sociaux ou via notre podcast sur vos plateformes d'écoute. À demain.